Donc, la troisième partie, en fait, grosso modo, c'est un peu des considérations par rapport à la masse de fiction qui est produite, qui doit être assimilée, à la masse critique de fiction et comment on va équilibrer. Et donc, la première question, si tu veux, c'est comment on présente le lore aux joueuses. Alors, quand je dis présenter, c'est vraiment aux joueuses et pas aux personnages, hein. On a déjà un petit peu débattu de qu'est-ce que savent les personnages. Maintenant, c'est plutôt sur qu'est-ce que savent les joueuses. Il y a un peu, je dirais qu'il y a trois, très rapidement, je veux dire, il y a trois approches. Et tu vas me dire un peu, s'il y en a une que tu préfères. La première approche, c'est l'infodump. On va faire une session zéro pendant 2-3 heures. Ça peut être un peu plus court, hein. Mais grosso modo, MJ va vomir de l'information. Les joueuses vont prendre des notes. Et puis, voilà, maintenant, ça fait 3 heures que je vous ai parlé de l'univers. On peut commencer à jouer. Il y a le mode on démarre avec je donne juste on fait je fais 5 minutes d'information sur le lore superficiel. Après vous créez vos personnages et on démarre tout de suite. Donc souvent c'est avec les personnages rookies, enfin on a déjà explicité comment faire, hein. C'est du coup on peut jouer à un univers profond en fait sans faire aucune présentation de l'univers au préalable ou très peu, quoi. Et la dernière étape c'est elle est un peu particulière, mais ça rejoint cette notion d'agentivité, de l'histoire créative de joueuse. C'est on fait une session zéro de world building qui peut porter sur un zoom sur l'univers, c'est-à-dire on lance une campagne de vampires, les faits globaux de vampires ce sont ceux qu'il y a dans les bouquins, mais là on va créer ensemble la ville de Roubaix. Voilà, la vampire Roubaix, j'imagine que tu vas avoir 3 vampires. On va créer ensemble, en fait, le setting de Roubaix. En collaboration avec les joueurs. Des fois, on peut envisager un world building qui soit beaucoup plus global. Par exemple, à Millevaux, on pourrait facilement envisager de dire, vous avez les briques de base de Millevaux, maintenant, on va faire un world building grosso modo. C'est quoi la carte de l'Europe, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les gros secrets et tout, et faire vraiment une espèce d'énorme setting de campagne à grande échelle en collaboration avec les joueurs. Donc bref, je récapitule les trois approches. Infodump, ou au contraire on démarre à sec, ou troisième option c'est faire un world building avec les joueurs.
Ok. J'ai eu ces discussions il n'y a pas longtemps sur un autre Discord. Moi je suis très très... passionné, hein, passionné par la question du lore, comment on l'aborde, comment on l'intègre, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Parce que principalement pour mon expérience de joueur, moi je suis plutôt un joueur, comme je disais, plutôt explorateur. Et donc moi ce qui m'intéresse le plus, un des trucs qui m'intéresse le plus en jeu de rôle, même de manière globale dans les univers fictionnels, c'est l'exploration de l'univers, la découverte de l'univers. Il y a une autre option qu'on n'a pas abordée, c'est l'option des romans. Moi, je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer de la narration des autres, hein, des romans et des jeux vidéo. Il y a deux éléments qui sont intéressants là-dedans, c'est la narration environnementale, qui est plus un concept de jeu vidéo. C'est-à-dire, on voit des éléments qui n'ont pas forcément de sens. Hein, c'est Fallout, j'arrive pas à le dire bien, Fallout, le font très bien. Tu te balades dans la map et tu vois des trucs. Tu vois un cadavre avec un truc dans la main. Dans Skyrim, c'est les journaux, c'est les livres. Voilà. C'est moi la narration environnementale, les journaux, les livres, hein, mais la narration environnementale, c'est le décor. C'est qu'est-ce que le décor t'apprend sur le lore, hein, voilà. Et l'autre option, c'est l'option qui est plutôt dans les romans, parce que les romans peuvent pas se permettre de faire la narration environnementale parce que c'est pas visuel. C'est l'info est donnée au fur et à mesure, en fait, par le biais de la narration, voilà. Pour moi, la pire des solutions, c'est l'infodump. L'infodump, pour moi, il faut l'éviter. Ça va saouler les nouveaux joueurs, ça va saouler les joueurs rookies. Ça a même saoulé les joueurs qui connaissent déjà l'univers. Il y a des cas, hein, et en fait, tout va dépendre de la proposition de jeu. Tout va dépendre du jeu, même pas de la proposition de jeu. Tout va dépendre du jeu, en fait. Il y a des jeux où l'infodump est difficile à éviter. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Vampire. Vampire, tu es censé savoir à minima ce qu'est la Camarilla dans les grandes bases, et tu es censé au moins connaître les traditions. Voilà, donc les traditions, c'est la base. Hein. Voilà, les traditions, c'est les lois des vampires.
Là, je me permets de faire un tout petit insert. Du coup, là se pose la question de ce qu'on appelle le jeu en convergence. C'est-à-dire, le jeu en convergence, c'est quand la joueuse fait la même chose que le personnage. C'est-à-dire, les règles de la Camarilla, soit, effectivement, est-ce que tu les présentes en infodump, ou est-ce qu'on joue, tu te fais eh ben, il va te présenter à la Camarilla, et puis en RP, en fait. En RP,
oui,
quelqu'un va t'expliquer le fonctionnement de la Camarilla, quoi.
C'est ça.
Donc, est-ce que tes teams, on le présente en RP, ou team, on le présente de façon plus méta, quoi?
Alors, moi, je suis team, on le présente en RP, sauf qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des cas où, en fait, les personnages ne sont pas des nouveau-nés. Ou ne sont pas des débutants, où les personnages arrivent, ils connaissent déjà. Bon, moi, j'ai le cas, par exemple, sur une partie là où je suis en train de gérer, il y a des gens qui arrivent avec 40 ans de vie vampirique. Et qui sont éduqués, qui sont formés, éduqués. Je reprends le nom de la Cama française. À la Cama française, il y a un statut qui est un peu horrible, hein, mais bon, voilà, je comprends que c'est. Je comprends pourquoi ils l'ont créé, qui est enfant sous tutelle. Enfant sous tutelle, tu viens d'être étreint, tu viens d'être né vampire, et tu ne connais rien, en fait. Donc, en fait, l'enfant sous tutelle, son rôle, et c'est un rôle assez pénible, je trouve personnellement, en tant que joueur, il dit rien, il parle pas, et il écoute, en fait. Il emmagasine, voilà. Moi, je trouve ça assez insupportable, mais il y a des gens qui s'épanouissent là-dedans, hein, voilà. Voilà. Et sinon, moi, l'infodump, je suis plutôt contre. Mais parfois, c'est obligé. Moi, j'avais commencé une campagne de L5A il y a quelques temps, avec un BMJ. Le MJ nous a fait peut-être une heure et demie, deux heures d'infodump, quoi. Basique, hein, basique. Mais c'était obligatoire, quoi. Voilà. Pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, L5A, quel que soit ton âge, à moins que tu commences nouveau-né, hein, mais c'est juste pas possible, vous vous en rendez bien compte. Dès que t'as 7 ans, dès que tu commences à savoir lire et écrire, hein, donc je sais plus, je crois que c'est 5-6 ans l'apprentissage de lire, lecture et l'écriture, on commence à te balancer des infodumps en fait, en tant que PJ, hein, pas en tant que joueur. En fait, t'as de l'infodump en tant que gamin, dans L5A, t'es samouraï, t'as de l'infodump tous les jours, t'as des cours, étiquettes, clans, histoire de l'Empire, voilà. Et en fait, donc à L5A, t'es obligé de faire un minimum d'infodump, pour moi, hein, voilà. Y a des gens qui le font pas. Et généralement, les joueurs sont largués, en fait. Les joueurs sont largués, ils comprennent rien, tu vois. Et donc, en fait, l'expliquer en jeu, ça marche pas toujours. Ça dépend vraiment du jeu et de la consistance de l'univers, en fait. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est ça, en fait.
Mais je vais me permettre une proposition radicale qui est présente, notamment, quand on avait joué la Mémoire de l'œuf où tu joues les Korax, là, qui est de jouer la naissance et l'enfance, en fait.
C'est ça. Ouais, ouais.
C'est-à-dire que si effectivement ton personnage devant une initiation qui commence, dès la plus tendre enfance, ben on va le jouer en fait. Après, bon, il y a un moment à quel point de l'infodump en RP n'est pas aussi ennuyeux entre guillemets que de l'infodump HRP. En fait, c'est toujours, on se pose aussi la question de quelle est la masse critique de contraintes. Après, elles peuvent être amenées de la façon la plus diégétique possible. Ça reste des infos. En plus, on peut même se dire, bah ouais, mais en fait, quand le problème, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé à ça, à diégétiser les choses. C'est-à-dire, pour avoir un jeu plus immersif, on va limiter les mécaniques, limiter le méta et tout apporter par la fiction. Mais en fait, entre moi, je te file une info sur l'univers en méta. En une phrase, je te donne l'info. Mais en vrai, si je veux te la donner par la fiction, ça peut être beaucoup plus long. Parce que genre, oui, tu rencontres un vieux sage, donc il faut qu'on établisse un lien de confiance avec lui pour que tu acceptes de suivre son enseignement, tout ça, machin. Et puis genre, voilà, en grosso modo, on va prendre une demi-heure de roleplay pour qu'il balance la même info, tu vois. Donc, en fait, tu vois, des fois, diégétiser la transmission d'informations, diégétiser l'initiation, quoi, en gros, eh ben, ça peut aussi représenter une perte de temps, quoi.
Alors après je dis, il y a la troisième, il y a la quatrième voie, hein, tu en citais trois, il y a la quatrième, il y a même cinq voies. Pour moi, il y a la narration environnementale, donc en fait tu découvres le monde au fur et à mesure, voilà, en te baladant, on en parlait tout à l'heure, l'exploration, en te baladant, tu vas découvrir des éléments de lore, voilà. J'ai vu récemment dans l'actual play, par exemple, il y a des zones, il y a la notion de zone, moi j'aime la notion de zone. Tu vas aller dans une zone où il y a la guilde, voilà. Toi, tu sais ce qu'est la guilde en tant que personnage, tu vois. Mais en tant que joueur, non, tu vois, voilà. Et en fait, dès que t'arrives, bah, tu vas rencontrer les gens de la guilde, tu vas voir à quoi ça ressemble, narration environnementale par la description, et aussi, ça recoupe un peu la narration d'un roman, par exemple, d'un roman de SF avec un deep lore, où en fait, le lecteur va découvrir le lore au fur et à mesure. Alors, même des fois, moi, j'ai vu ça dans certains romans, les 100 premières pages, je comprends rien, en fait. On te balance des termes, on te dit « oui, il y a ça », moi, j'aime pas ça, hein, voilà, mais après, c'est un choix de pas faire d'infodump. Les romans peuvent pas faire de l'infodump, en fait. Hein. C'est un roman, donc il y a une narration, donc en fait, tu peux pas commencer en disant, bah,
t'es le lourd Tolkien et tu commences par 30 pages, voilà, sur l'histoire de l'herbe.
C'est ça, exactement, sur les Hobbits. Mais en gros, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on va pas commencer à te dire, bon, avant de commencer le roman, faut que tu tapes un wiki, en fait. Voilà. Non, le roman va te faire découvrir au fur et à mesure. Alors, donc, ça, c'est, pour moi, c'est un peu la quatrième voie, c'est au fur et à mesure. par le décor, par des éléments que tu vas apporter en jeu. En fait, c'est un peu la posture du WMJ dans comment intéresser vos joueurs au lore de vos JDR. C'est en fait, tu apportes les éléments au fur et à mesure quand il y en a besoin. Tant que les gens n'ont pas rencontré le sabbat, par exemple, dans Vampire, tu parles pas du sabbat, en fait. Voilà, tu parles pas du sabbat, les gens parlent pas. Voilà. Par contre, le moment où tu vas les rencontrer, excuse-moi, je termine juste là-dessus, le moment où tu vas les rencontrer, bah, là, il va y avoir un PJ qui va te dire, bon, on t'a pas parlé du sabbat avant, maintenant, ils sont là, il faut t'en parler. Voilà. Donc, ça va être un peu, c'est pas de l'info, c'est un peu de l'infodome, mais pas tout à fait, en fait, parce que on va pas te surcharger sous l'info dès le début. Après, l'infodome peut avoir lieu au fur et à mesure de la partie, hein. Pour moi, l'infodome, il faut qu'elle soit répartie, en fait. Il faut qu'elle soit répartie dans le temps. Voilà. Ouais, après, ouais. Je parlerai de deux autres approches, mais vas-y, Thomas, je t'en prie.
Ouais. Parce que, en fait, du coup, il y a deux façons différentes de faire découvrir l'univers au fur et à mesure. Bon, il y a le truc qu'on a déjà abordé. Les personnages sont des rookies et ils vont tout apprendre au fur et à mesure. Et il y a les personnages sont des érudits, mais les joueuses elles connaissent pas tout l'univers. Mais de temps en temps, au gré d'un jet de savoir, en fait, il y a de l'information qui va du MJ qui transite par le personnage et qui arrive à la joueuse, quoi, grosso modo. Ah bah en fait, finalement, tu connais cette religion. Enfin, toi, ton personnage il la connaît depuis longtemps. Toi, tu la connaissais pas il y a une minute, mais ton personnage il la connaît depuis longtemps. Et en fait, il y a un terme de contrat social, un terme de transmission des informations. Moi, je fais ça aussi beaucoup avec la mécanique de. C'est que si je fais jouer un jeu avec des mécaniques un peu compliquées, en général, comme j'ai la flemme de faire une présentation des mécaniques qui va durer 2 heures, je dis, bon bah, je vais vous présenter les mécaniques de base, et puis les mécaniques avancées, je les présenterai quand elles seront utiles.
C'est ça,
mais
c'est ça.
Mais je préviens par contre, toujours, il y aura forcément un effet qu'au moment où je présenterai la mécanique avancée, vous allez me dire, ah oui, mais si j'avais connu la mécanique avancée dès le départ, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. Et ça, c'est pareil avec l'univers et tout. Ah, mais si j'avais su qu'en fait, le sabbat, on pouvait pas leur faire confiance, j'aurais peut-être pas fait cette action et tout. Et donc, il faut dire, oui, bon, bah, il y a des moments, je vais vous présenter des trucs d'univers. En fait, votre personnage, j'en sais, les connaît depuis le début. Et vous allez me dire, ah oui, mais en fait, si j'avais eu cette info d'univers, j'aurais fait faire des choix assez différents, mon personnage. Et on va dire, bah, tant pis. Écoutez, les gars, c'est le prix à payer, en fait, de se passer d'infodump en début de partie. C'est que il y a des moments, on va avoir des trucs. Bah tiens, je te transmets cet aspect de lore avancée. Tu vas dire ah oui, mais si j'avais su plus tôt, j'aurais fait autrement. Ouais, on sait. Eh ben tant pis, on va devoir trouver une explication à faire de la continuité rétroactive, là, de la retcon. On va trouver une petite rustine narrative pour expliquer que oui, mais quand même le personnage. Bon bah voilà, il a quand même pris la décision parce que ceci ou cela.
Bien sûr. Alors après, moi, là, je rebondis sur un truc que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a certains MJ, hein, moi je connais même pas mal d'ailleurs, un des premiers trucs qu'ils demandent en recrutement, c'est d'abord ton expérience du jeu, est-ce que tu le connais bien, à quel point tu le connais, etc. Et le deuxième point, c'est qu'il y en a même qui vont te sélectionner là-dessus. Il y a des gens qui vont dire, bah moi je ne prends pas, moi je connais plusieurs MJ comme ça, hein, je prends pas de joueurs qui connaissent rien à 40 000, c'est pas possible, l'univers est trop vaste, j'ai pas envie de faire de l'infodump. En fait, ça c'est même une cinquième voie, hein, pour moi, hein, c'est prendre des joueurs qui connaissent déjà l'univers. Voilà. C'est-à-dire que là, tu fais pas d'infodump, tu prends des joueurs qui ont déjà les bases, et basta. Voilà. Moi, je suis pas forcément trop fan de cette méthode, mais je comprends qu'elle a du sens. Voilà. Donc,
ouais, puis aujourd'hui, avec le jeu en ligne, c'est peut-être plus possible qu'avant, en fait. Tu as facilement retrouvé des lore masters pour peupler ta table, quoi.
C'est ça. Donc, en fait, t'as un peu 5 options. Celle d'être un rookie, de commencer vierge, l'infodump en début de partie, qui est généralement, peu privilégié, hein, soyons clairs, le world building en commun, plutôt sur la narration partagée, hein, de manière générale, la narration, l'apport d'éléments en cours de jeu, je sais pas trop comment appeler ça, mais bon voilà, et la sélection en fait, la sélection de joueurs qui s'y connaissent déjà. Pour le world building en narration partagée, moi je trouve ça très intéressant, mais ça marche que dans certains jeux, Vermine 2047, les PBTA. Bon voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, mais après tu me non, pas tout à fait. Excuse-moi, j'ai dit une bêtise.
Je vais donner un exemple en fait où tu peux faire si tu fais un world building ciblé, ça peut être marcher avec n'importe quel jeu si c'est vraiment
c'est
sur
ça.
Une petite zone.
C'est ça. Donc en gros, tu dis bon bah voilà, par exemple, comme tu me disais, on commence à Roubaix. Bon voilà, Roubaix non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de vampires, mais bon passons. Tu commences à Roubaix et on va construire la ville, tu vois. Mais là encore, prendre en compte la cohérence, on va en parler dans quelques instants, et le fait que quand tu joues dans un univers contemporain, la ville existe déjà. Tu peux pas la créer de A à Z. Il va y avoir des éléments structurants, dont on parlait au début, le nombre d'habitants, les lieux de la ville, l'histoire de la ville. Quand tu joues dans un univers contemporain, tu t'enracines dans le réel, en fait. Donc, en fait, t'es pas tout à fait libre, même en building.
Ça me fait penser que ça donne une voie encore supplémentaire. On a parlé des wikis. Si on fait Vampire Roubaix, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'en cours de partie, les joueuses elles-mêmes peuvent aller sur Wikipédia Roubaix et puis te sortir des infos sur Roubaix, tu vois.
Oui, bien sûr, c'est ça.
Si on considère que les joueuses jouent des personnages qui sont pas trop débutants, rien ne les empêche peut-être, enfin, en accord avec le MJ bien sûr, mais de aussi aller sur le wiki World of Darkness, tu vois, pendant la partie, et du coup, aller se renseigner soi-même sur le lore, tu vois.
Bien sûr. Alors ça, j'y pensais, mais ça c'est risqué, je vais juste terminer là-dessus. Ça c'est risqué parce que le problème de ça, c'est que comme c'est un wiki, tu vas vite avoir la tentation et tu vas avoir des infos qui vont te spoiler. En fait. Moi, typiquement, moi je cite mon exemple hein, pour un truc qui n'a rien à voir, le cinéma. Moi, ça ou les romans. Moi, ça m'arrive très fréquemment d'aller sur Babelio, une espèce de bibliothèque en ligne, de catalogue en ligne de romans avec des critiques, ou d'aller sur Wikipédia pour regarder le résumé d'un film, de quoi ça parle, etc. Et souvent, ça spoil. Donc, on va te donner la fin, on va te donner des éléments, tu fais merde, putain, moi, j'avais pas envie de dire ça, quoi. Et c'est pareil quand tu dis à un de tes joueurs, va sur le wiki sans contrôle. Moi, j'aime bien le contrôle, hein, vous l'aurez bien compris. En fait, le joueur est laissé à lui-même et donc va peut-être aller voir des infos qu'il ne devrait pas avoir. Tu vois, il va peut-être avoir accès à des infos secrètes, à des infos de lore qu'il ne devrait pas avoir. Tu vois, enfin, par exemple, un truc tout con, tu vois, on te dit, bon, les Assamites, c'est des indépendants. Toi, tu vas sur le wiki, tu vois que, bah, en fait, non, les Assamites, il y a quand même une faction entière qui est au sabbat, tu vois. Ah bah non, bah les mecs ils sont pas tout à fait indépendants en fait, hein, voilà, c'est ce genre de truc quoi.
Spoiler les Assamites, on va mettre une balle de spoiler.
ça va te spoiler en fait, voilà. Donc en réalité, ça peut poser un certain nombre de problèmes, et je suis pas trop fan de cette méthode, et la plupart des MJ que je connais non plus. Ça revient sur le plaisir de jeu en fait, hein. Il y a des gens qui ont aucun problème avec le spoil, hein, voilà. Moi par exemple, j'ai pas de problème avec le spoil. Il y en a beaucoup qui ne supportent pas et qui pètent des câbles, hein, même. Quoi, ils sont spoilés, hein. Donc en fait, il a son spoiler à prendre en compte. Dans ce cadre-là, le mieux en fait, c'est de faire des scans quand t'es en distanciel. Tu fais des scans, tu fais des screens, tu gommes avec un truc noir les trucs que les gens n'ont pas à savoir. Et en fait, tu vas leur apporter toi-même les éléments, donc de l'info dump, hein, c'est en clair, du wiki en leur disant voilà, sur le wiki, vous avez ça, ça, ça. Le fait de dire aux joueurs allez sur les wikis, allez vous renseigner par vous-même. À moins que ce soit une sélection, hein, de dire bah voilà, moi je demande des joueurs qui ont déjà une bonne connaissance, ça pose des problèmes de spoil et ça peut poser des problèmes de plaisir de jeu aussi, je pense. Voilà.
Alors, ce qui est bien, c'est que tu conclus avec la dernière forme que je voulais présenter, c'était ce truc que l'animateur de la partie va faire une sélection de textes pour les joueuses, des textes à lire en avance. Et en fait, je pense que ça mériterait qu'on remette ça un peu en avant. Parce que, bon, bah, d'une, comme tu as le contrôle, effectivement, tu vas éviter les spoils, tu vas donner que les infos que tu veux bien donner, quoi. Et aussi, en fait, par rapport à l'infodump, à l'oral, faut quand même bien être conscient que, bon, bien sûr, il y a les personnes dyslexiques, c'est un peu à part. Pour normalement, l'écrit, c'est un moyen de transmission de l'information beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que à l'oral, tu dis 100 mots à la minute. Une personne qui lit normalement lit 300 mots à la minute. Et en plus, je pense que les 100 mots à la minute de l'oral, c'est dans le cas d'une personne qui te fait un cours magistral, qui n'est pas interrompu, tu vois, qui peut aller droit au but. Mais si on est dans une discussion, parce que techniquement, une présentation d'un vodum par le MJ, c'est quand même une discussion. Les joueuses vont interrompre, poser plein de questions, faire des blagues de Kaamelott, enfin, tu vois, passe-moi les choses.
L'enfer.
Et donc en fait, à mon avis, tu dois être à 50 mots de lore utile ou 25 mots utiles à la minute, tu vois. Donc en fait, la transmission orale d'un univers, bon, elle a d'autres intérêts, le côté social, le côté interactif, questions-réponses et tout. Mais en termes de rapidité de transmission, c'est totalement nul par rapport à l'écrit. Je pense même quand tu es une personne dyslexique, tu vas aller plus vite à assimiler de l'info. J'espère que je dis pas de bêtises. Si vous êtes dyslexique, corrigez-moi si je dis des bêtises. Mais tu devrais quand même aller beaucoup plus vite à assimiler les infos par écrit. Au pire, en plus maintenant, tu peux faire du speech to desk. Et si vraiment t'es un gros flemmard, tu peux prendre le PDF que l'MJ t'a envoyé. Tu fais faire un résumé par une IA ou je sais pas quoi. Comme ça, t'as un résumé. Bon, c'est un peu de la triche, mais t'as encore ça à faire.
Alors, il y a deux notions là-dedans, c'est la question de la mémoire. La question de la mémoire, il y a des gens, c'est très stéréotypé ce que je veux dire, et c'est certainement fou, hein, j'ai plus de connaissances de la mémoire. Il y a des gens qui ont une mémoire orale, d'autres qui ont une mémoire visuelle. En réalité, il y a des gens qui ont, il y a des gens, tu peux leur balancer autant d'infodumps que tu veux écrites, ils vont pas mémoriser, en fait. Moi, j'essaie de faire les deux. J'essaie de faire les deux quand je suis MJ. C'est-à-dire que d'un côté, je balance de l'info orale, et de l'autre côté, je balance des infos écrites. Donc, je fais les deux pour essayer de correspondre aux deux grands types de mémoire. Bien sûr, il y a la mémoire kinesthésique, mais ça, c'est encore autre chose. Hein. Je ne peux pas physiquement apprendre du lore à quelqu'un. Compliqué, voilà. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est les deux grands types de mémoire. Donc, il y a aussi la question de la mémorisation du lore. L'autre élément, c'est qu'en fait, très simplement, tu fais quelque chose qui va donner un travail énorme au MJ. Hein, mais il y en a plein qui le font parce que pas le choix. C'est tu vas travailler toi-même à faire des résumés, en fait. Tu vas résumer le lore, tu vas faire des docs de jeu dans lesquels tu essaies de synthétiser en tant que MJ et de donner des informations essentielles, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de les renvoyer vers un wiki, c'est toi, le MJ, qui va aller piocher dans le wiki les infos et qui va les synthétiser dans des docs de jeu. Ça se fait très souvent, par exemple, dans les GN, tu as des docs de jeu en amont que les joueurs doivent se taper, hein, donc c'est de l'infodump, hein, pur et dur, mais c'est synthétisé. C'est-à-dire qu'on essaie de résumer et de couper dans le vif, ce qui est compliqué, ouais, hein, là, il n'y a pas longtemps.
Il y a des GN inspirés de jeux de rôle existants où souvent les orgas font un travail de resynthèse de l'univers. Ouais.
C'est ça. Et en fait, pour le coup, typiquement, on est sur un projet un peu hybride, sur un serveur où on a une dizaine de joueurs, on est 4 orgas. Et ben, on a une orga qui donne accès aux joueurs à un dossier Google Doc où tu as une dizaine de docs de jeu classés par catégorie. L'idéal, même si tu peux te faire un sommaire, qui donne encore plus de boulot au MJ, hein, faire un sommaire, de faire un index cliquable, ce qui est un boulot de fou, hein, on est bien d'accord, hein, voilà. Mais, et en gros, tu donnes accès à un glossaire, à des éléments comme ça, et dès que quelqu'un a un problème, il entend un mot en partie qu'il a pas, hop, il va sur son Google Doc. Tout ça marche que en distanciel, hein, en présentiel, moi, je joue assez peu, donc je peux pas trop, voilà. Et hop, il va sur son Google Doc, et hop, là, il a accès. Pareil, le Miro, excellent outil. Le Miro, par exemple, tu fais ta carte relationnelle. Dès que tu as un doute sur un personnage, hop, tu vas voir le Miro. Tu as le personnage, c'est lié avec le personnage. Un petit résumé de 3-4 lignes sur sa personnalité qui est agrémenté en plus par les autres joueurs. Voilà, ça, c'est des éléments Google Doc et Miro. Moi, je pense qu'en essentiel, il faut pas hésiter à se saisir d'un maximum d'outils de résumé, en fait. De résumé, même l'IA, hein, même l'IA potentiellement. Moi, par exemple, qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, bon, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'IA, mais on va pas discuter de l'IA aujourd'hui. Moi, je vais sur Internet, je tape ma recherche et hop, j'ai l'IA qui me met une recherche synthétisée, qui me met un résumé synthétique de ce que j'ai recherché. Et ça va beaucoup plus vite que d'aller me taper des wikis, des thèses, voilà, des trucs qui vont me prendre des heures, quoi. Voilà. Alors ça a l'inconvénient de pas être complet, d'être parfois même faussé, on en parlait tout à l'heure. Ça a l'avantage d'être rapide, efficace et simple.
Il faut qu'on finisse dans un quart d'heure j'ai l'école, donc ce sera finito.
Je pense que la dernière question, on va le faire rapidement parce que on a déjà répondu pas mal.
Une toute dernière éloge sur le texte écrit. J'avais une expérience comme ça assez concluante. Une fois, il y a un MJ qui nous a fait jouer donc un jeu qui s'appelle Viricorn's Guide. C'est un jeu de Paul Cheguet. Grosso modo, ça se passe dans une ville Sword and Sorcery, une espèce de bac à sable. Donc, il nous avait fait lire tout le PDF. Donc, on avait lu exactement les mêmes infos que le MJ. Donc, toutes les mécaniques et tout le lore. Et en fait, j'ai trouvé que l'expérience était vraiment intéressante. Parce que du coup, comme en tant que joueur, je connaissais par avance l'univers, j'avais vraiment des idées d'action et tout que j'aurais vraiment jamais eu si j'avais pas eu le cas. Et donc, par exemple, il y avait une espèce, il y avait une espèce qui était assez intrigante, cette espèce de scarabée super sage, mystique et tout. Et du coup, moi, je suis parti sur un truc que mon personnage était fasciné par eux et voulait aller à leur rencontre. Et sauf que si j'avais laissé le MJ nous présenter l'univers dans la diégèse, tu vois. Et il n'est même pas dit qu'il aurait passé ne serait-ce qu'une seconde à décrire, à évoquer ces créatures ou à parler d'elles et tout. Tandis que là, moi, j'avais la liberté de les amener par moi-même parce qu'en tant que joueur, je les savais et donc j'ai décidé que cette information-là, mon personnage l'avait aussi, quoi. Je pense qu'il y a plein de. Quand tu as une expérience de connaissance préalable de l'univers. Tu vas pouvoir initier des actions, t'intéresser à des choses auxquelles sinon t'aurais jamais su que ça existait, donc t'aurais même pas pu t'y intéresser, tu peux passer à côté de plein de trucs et tout. Et donc si le MJ se sent d'ouvrir l'expérience, Ça peut vraiment apporter une fluidité à une expérience différente et tout. Alors on perd le côté. Et je trouve qu'on perd pas tout à fait le côté explorateur. Certes, l'univers, il nous est spoilé, mais là, par exemple, le Viricorn Gains, les choses étaient présentées de façon un peu parcellaire, quoi. On sait qu'il y a ces scarabées intelligents qui ont accès à des savoirs secrets, mais on ne sait pas c'est quoi leur savoir secret, on ne sait pas c'est quoi leur rite d'initiation, comment ils accepteraient de donner des infos aux humains. Ça, il faut l'imaginer. Donc, en fait, l'exploration, elle va être dans comment, à partir de moi, mon envie de jeu, moi, mon envie de m'adresser à telle culture, comment MJ va improviser et mettre ça en place, quoi. Il y avait un lieu, par exemple, dans le jeu, c'était un restaurant. On savait comment le restaurant fonctionnait, il était très particulier. Et ce qui était fun, c'était d'y aller et puis de dire, OK, comment le MJ va me présenter le restaurant? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Comment les autres joueurs vont se comporter dans ce restaurant si particulier? Donc, je sais pas si tu vois cette espèce de plaisir un peu d'exploration, mais un peu méta, qui à part, en fait, qui part du principe qu'on a quand même déjà pas mal d'infos.
Oui, bien sûr, ce que je disais, c'est le rapport avec le spoil. Je vais juste faire un aparté rapide là-dessus, mais le spoil, pour moi, pourquoi je dis que ça ne gâche pas l'expérience? Parce que tu vas faire attention à d'autres détails. En fait, certes, tu connais la fin, mais tu vas voir la construction. C'est un plaisir, comme tu dis, un peu méta, c'est-à-dire que tu vois qu'est-ce qui amène vers la fin, tu vois. Par exemple, Dune. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'histoire de Dune. Tu vois, on a lu les romans, on a vu le premier film de David Lynch. Ça n'empêche pas que Denis Villeneuve apporte d'autres éléments. On connaît la fin, on sait ce qui va se passer à la fin. Mais il y a des changements, il y a aussi la manière dont c'est amené, il y a la progression du récit. Ça te permet aussi le spoil de faire accès, de faire attention à d'autres détails, la mise en scène, le son. Comme tu es moins concentré sur l'histoire que tu connais déjà, tu vas faire attention à d'autres détails, comment l'histoire est amenée, comment les acteurs
Il y a
jouent.
un peu en jeu de rôle, il y a un peu une sorte d'effet Ikea, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai joué. Oui, je sais comment sont les Malkavians, mais c'est autre chose que de jouer dans un clan de Malkavians, puis d'en faire partie, de jouer vraiment, d'actualiser le truc, quoi.
Bien sûr. On va peut-être aller sur la dernière question, et
Ouais,
moi je vais répondre
dernière
très rapidement,
question.
hein,
Ouais,
mais.
c'est la dernière question, c'est la cohérence. Est-ce que c'est possible que les univers profonds soient cohérents, hein, genre un truc comme le monde des ténèbres par exemple? Et est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une cohérence de la construction de l'univers? Et si on n'arrive pas à être cohérent, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Alors, moi j'ai répondu un peu dans la première partie sur le structurel, l'originalité, et j'ai répondu tout un peu du long du. Ça fait une bonne conclusion. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Hein, je vais répondre très rapidement à cette question. Pour moi, l'univers doit être cohérent. Pour moi, c'est une des importances principales qui fait que je vais aimer un univers ou pas. C'est s'il est cohérent ou pas. Donc pour moi, c'est important de donner des éléments cohérents, de donner une timeline, une chronologie, de donner une cartographie qui soit précise. C'est comme ça que moi je vais m'amuser dans des univers qui sont le plus cohérents possible. Le problème, c'est qu'un univers qui a, il y en a plein, hein, les gros univers Star Wars, Warhammer 40 000, le WoD, ces univers sont rarement cohérents parce que en fait, ce sont des univers pluriels avec plusieurs écritures, plusieurs auteurs, une histoire longue généralement de 40, 50, voire même plus aujourd'hui, hein, 60 ans. Qu'est-ce que le temps passe vite. Comment tu fais pour un univers à un univers cohérent? C'est très très.
Il doit y avoir des tas de contradictions, d'erreurs, de
C'est ça,
coquilles, on
exactement.
crée des
C'est ça,
suppléments.
exactement. C'est ça, exactement. Donc, en fait, comme c'est une histoire plurielle et qui s'étend sur 40, 50, voire 100 ans, tu as des incohérences. Comment tu fais pour gérer l'incohérence? Chacun a son choix. Chacun se constitue son canon personnel. Et en fait, il y a un canon. Il y a un canon réel et il y a le canon individuel. Chacun va se construire son canon individuel. Moi, par exemple, mon canon individuel, il repose sur une idée très simple, hein, que j'ai mis en scène récemment. C'est le dernier livre qui a raison. Donc, le dernier livre sorti, c'est lui, le canon. Voilà. Donc, s'il est incohérent avec d'anciens livres, eh bien, c'est pas grave. C'est le dernier livre qui a raison. C'est comme ça que moi, je me base sur mon canon personnel. Voilà. Et je termine là-dessus. Voilà. Je sais pas ce que
Ouais.
toi t'en penses, mais.
Moi j'ai une autre hein, sur le truc sur cette ce truc de réparation. Moi j'ai un truc aussi, c'est la joueuse experte qui a raison. Parce que moi notamment, ça m'est déjà arrivé de jouer à des univers, par exemple Vampire, où j'avais des joueuses à ma table qui connaissaient beaucoup beaucoup mieux l'univers et les règles que moi. Et en fait, c'est la joueuse qui a l'air de qui est en pouce, qui a le meilleur entre guillemets roleplay d'expert, quoi. C'est-à-dire qui, enfin, c'est pas du roleplay, mais la joueuse qui a l'air la plus sûre d'elle quand elle dit un truc, c'est elle qui a raison. Même si ça se trouve après avoir fact-checké, elle dit des bêtises et tout, c'est pas grave. L'important, c'est la crédibilité au moment de la partie, tu vois. Et donc, par exemple, si on fait une partie avec de la plongée sous-marine, une fois j'ai fait la partie avec de la plongée sous-marine, il y a un joueur, il a fait, moi je suis, j'ai une expérience de marin-pêcheur, la plongée sous-marine c'est comme ci, comme ça, les palettes décompression c'est comme ci, comme ça, comme ça. Pendant la partie, on n'a pas moufté, on a fait comme il a dit. Ça se trouve, je ne suis pas allé vérifier, mais ça se trouve, si j'étais allé vérifier, peut-être qu'il disait des bêtises, tu vois.
Ouais. Alors ça me pose deux soucis, cette logique. Déjà, la logique, c'est comme tu dis, c'est celui qui est le plus convaincu qui a raison. Ça, j'aime pas trop cette idée, pas du tout même. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que tu es convaincu que tu dis la vérité. Voilà, ça, c'est la première étape.
Ouais, c'est vrai que moi, mes exemples, ils sont un peu vieux. C'est vrai que maintenant, tout le monde a un téléphone, peut vérifier sur Internet que tu dis pas de la merde. Ce que je connais pas forcément à une époque, quoi.
La deuxième étape, c'est la notion d'expert, de spécialiste. Je suis plus favorable à ça. Moi, j'aime avoir des experts. Je me réfère très régulièrement à des experts, hein. Même dans le WOD. Hein, j'ai quelqu'un que je considère comme un expert. Quand j'ai une question, je lui pose. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, hein, voilà, parce que j'ai des sources qui contredisent parfois ce qu'il dit, hein, des sources récentes. Comme je disais, hein, Danny a raison, des sources récentes qui contredisent ce qu'il dit.
L'exégète du monde de Darkness.
Voilà, il a une expertise que je trouve noble et à laquelle je me réfère régulièrement. Il y a des éléments que j'ai pas, je lui demande quel élément par rapport à ça. Il a l'avantage d'être assez simple. Voilà, il fait pas de l'info dump, quoi. Il répond, en plus c'est sur Discord, donc c'est du synchrone. Je pose une question, il répond tout de suite. Voilà, il est très disponible aussi. Voilà, donc voilà, et c'est pour moi, c'est ma référence WOD. Ce qui ne veut pas dire que je le suis comme parole d'évangile. J'ai un esprit critique, j'ai accès moi-même à des sources, donc ça me permet de contrebalancer son expertise personnelle. Moi, je trouve ça important de se reposer sur des experts. L'autre fois, avec Thomas, on avait une discussion privée sur les experts du jeu de rôle, les experts de la théorie. Chacun a ses experts. Chacun va avoir ses références propres, ce qui complique parfois la conversation. Moi, je sais qui sont mes références dans la théorie JDR, tu vois, par exemple. Voilà. Et ce sont des gens à qui je me réfère. Alors, qu'est-ce qui se passe si les experts se contredisent entre eux ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe si les experts se contredisent entre eux ? Et bien là, c'est un vrai souci. Parce que là, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas accès à leur communication et à eux-mêmes ? Et bien, en fait, c'est aussi là qu'est la richesse de la discussion. C'est là qu'il va y avoir des débats. Et finalement, je vais un peu conclure là-dessus pour ma part. Un des intérêts du lore, c'est que ça fournit une source de débat infinie et qui est à la fois un avantage. Ça fournit des débats, ça fournit des éléments, et qui a un inconvénient, parce que malheureusement, le fandom, il serait souvent toxique, et va souvent aller jusqu'à l'insulte, hein, soyons clairs, hein, ou l'exaspération, ou la colère, quand ton canon individuel n'est pas le même que son canon à lui. Voilà.
Ouais. Moi, sur la cohérence, je voulais finir avec deux choses. Alors, il y a un patch général que tu as évoqué toi-même, hein, qui peut être de dire, oui, mais en fait, le bon univers, c'est l'univers de maintenant à ma table, en fait. C'est que grosso modo, il y a un monde des ténèbres par MJ de monde des ténèbres, tu vois. Et on s'accommode de ça, quoi. C'est imparfait, mais c'est pour avoir la paix sociale durant la partie. On part du principe que voilà, c'est MJ a fait sa propre digestion de l'univers et tout. Il peut faire des erreurs, il peut faire des réappropriations aussi, tout en connaissance de cause, c'est-à-dire des trahisons tout à fait conscientes. Et on part du principe de voilà, c'est comment TMJ du monde des ténèbres, tu vas être PJ à une autre table de monde des ténèbres, bah tu sais que le monde des ténèbres de l'autre MJ, ça va pas être le même que le tien, quoi. Et bah il faut l'accepter, quoi. Sinon, concernant Milvo, là j'ai un peu triché, puisque du coup il y a différents éléments métaphysiques de Milvo, tels que l'oubli, l'égrégore, qui fait qu'en fait l'univers il est assez mou. C'est même presque plus un multivers qu'un univers, tu vois. Et du coup, on va faire cohabiter vraiment beaucoup de choses qui sont en fait très contradictoires, quoi. Et donc, par exemple, si tu vas te renseigner sur le passé de Milvo, bah en fait, il y a plusieurs passés, quoi. Mais en fait, quand je dis qu'il y a plusieurs passés, c'est qu'il y a vraiment plusieurs passés, quoi. Donc, tu vas avoir... Enfin, la vérité est multiple, changeante, et c'est comme ça, quoi. Et le fait que l'univers est mou, c'est une de ces constantes métaphysiques, mais on va dire que d'un point de vue ludique, ça m'arrange aussi, quoi. une vérité à un moment ne peut être vérée après. Et aussi, je me permets des uchronies, c'est-à-dire que des fois, je vais dire, bon, bah, en fait, c'est Millevaux pendant la guerre napoléonienne, ou c'est Millevaux fantasy, dans un monde de fantasy, c'est même pas notre monde et tout. Et puis voilà, qu'est-ce que tu vas faire, quoi. Cette notion quasiment d'univers comme filtre aussi, quoi.
La différence, c'est que là, c'est toi, le créateur du jeu, et même l'un des seuls, hein, il me semble qu'il y a un travail collaboratif sur Millevaux, mais c'est quand même toi qui as la main finale sur le corps central. Ouais. Moi, ce qui me dérange vraiment dans cette méthode-là, c'est le contrat social. D'accord. En réalité, quand moi je m'engage sur une partie du WoD, j'attends que le lore soit canon, en fait. Canon, à part avec mon canon individuel, hein. Canon avec, comme je vous disais, la V20, par exemple. Voilà. Et donc, ça
peut donner lieu à des... C'est pour ça que je pense que si tu diverges beaucoup, tu as intérêt à l'annoncer très en amont.
Voilà, c'est ça. Et après, techniquement, effectivement, ça va se faire en amont. C'est-à-dire qu'en général, même si je le fais pas, moi, je pose une question dès que je m'engage sur une campagne. Ma question, c'est est-ce que tu respectes l'or officiel, toi? Et quel lore tu respectes? Quels éléments tu changes, histoire de savoir où je mets les pieds, en fait. Voilà. Une question que je pose systématiquement, tu vois. Voilà. Et quand la réponse me paraît floue, pour moi, c'est une alerte. Hein. Pour moi, c'est une alerte. Je suis en mode oula. Après, il y a des MJ qui. Après, le fait de ne pas connaître par cœur l'univers du jeu n'empêche pas de maîtriser. Mais dans ce cas-là, pareil, il faut prévenir. Il faut dire, écoutez, moi, je connais pas le lore. Est-ce que tu acceptes les interventions, comme tu disais tout à l'heure, de joueurs experts hors partie ou en partie? Bon, en partie, c'est plus galère, mais hors partie pour te dire non, bah là, t'as fait une bêtise, t'as fait une erreur. Pas une bêtise, hein, pas une erreur, mais là, à mon avis, moi, je suis pas trop d'accord avec ta vision du lore. Moi, en tant que, entre gros guillemets, expert du lore, je te propose plutôt de faire ça, parce que c'est plus cohérent. Et c'est pareil, là, on parle de la cohérence de l'univers. Ça va aussi jouer sur la cohérence de la partie. Si l'univers n'est pas le même dans la tête des joueurs, ça pose des problèmes de cohérence.
Juste pour terminer, parce qu'en fait, comme il reste 5 minutes, je pense que j'ai le temps de poser ma dernière question, qui n'en est pas vraiment une, mais quand même savoir ce que tu pensais de... en fait, il y a une notion qui est notamment présentée à la cellule que je trouve intéressante, qui s'appelle le réenchantement du monde, qui est notamment à la cellule, ils parlent de leurs expériences à vampires. Je pense qu'ils ont dû faire une campagne de vampires dans leur ville, tu vois, il y a dû avoir un truc comme ça. Et que du coup, après, quand ils repassent dans la ville, ils disent « Ah, en fait, ce bâtiment, nous, on sait que c'est un repère de la sombra, tu vois. » Et qu'il y a un côté, en fait, il y a pas mal de jeux, bah, que ce soit les jeux contemporains, ou les jeux post-apo, parce qu'il y a le cas de Millevaux, où en fait on va plaquer un filtre magique, différent, merveilleux, étrange, sur notre univers consensuel, quoi. Ou alors, dans les jeux made fans, on a eu ce débat au tout début là, de genre savoir combien il y a d'habitants dans la ville et tout. On va aussi plaquer en fait des choses du monde réel qui vont donner une consistance en fait au monde merveilleux et tout. Et je veux savoir si tu avais quelque chose à dire sur ce mariage en fait du réel et de l'original, et si c'est un sentiment qui t'intéressait ou pas, quoi.
Le mariage du réel et de l'original, j'ai pas trop compris, excuse-moi.
Ben, en fait, sur le fait que la plupart du temps, les univers profonds, c'est soit des univers contemporains ou futuristes, mais du coup, tu vas retrouver vraiment des éléments de notre monde à nous, qu'on va réhabiller, en fait, en mode vampire, en mode post-apo, ou soit on va partir sur des mondes très différents, par exemple, je sais pas, les royaumes oubliés, c'est pas du tout la Terre, mais en même temps, quand tu vas dans une ville, ça ressemble quand même beaucoup à une ville du Moyen-Âge. On sait le nombre d'habitants, les fleuves et tout, on boit de la bière, il y a un seigneur comme avant et tout.
Le problème, c'est que c'est difficile de faire une réponse courte à ça. Ouais. Moi, je vais répondre, j'essaie de répondre très très rapidement. Pour moi, l'interaction avec le réel, c'est le truc le plus intéressant. En mode fan, dans Fantasy et Moyen-Âge, notamment un ouvrage dirigé par Anne Besson, qui est un peu la spécialiste universitaire de la fantasy en France, il est question du fait que la fantasy s'enracine souvent sur un médiéval fantasmé. Donc sur une histoire du médiéval qui est une histoire du Moyen-Âge qui est certes fantasmée, mais qui s'enracine dans les mythes et les légendes du Moyen-Âge, réels. Les mythes ne sont pas réels, mais ce sont des vrais mythes et des vraies légendes, voilà. Quelle est la tension, le rapport entre ce réel qui, bien sûr, est fantasmé et la tension avec l'imaginaire? Et à mon avis, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Enfin, qu'on en fasse un autre podcast, hein, mais voilà. L'autre point, c'est ce que Apophis, dans son guide des genres et ce genre de l'imaginaire, appelle l'histoire secrète. ou l'Uchronie, hein, voilà. Mais l'Uchronie, l'histoire secrète, c'est la même chose. L'histoire secrète, c'est ce qu'est le WOD. Derrière le WOD, il y a notre histoire. Voilà, il y a l'histoire réelle de notre monde, hein. Voilà, c'est notre monde, hein. Le WOD a pas quelques différences. Hein, un monde plus sombre, gothique, etc. Mais ça reste dans les grandes lignes notre monde. Donc la chronologie est la même que la nôtre. Voilà. Et en fait, l'histoire secrète, ça va te permettre de dire, oui, il y a la même histoire que nous, mais il y a une histoire secrète, une espèce de sous-couche qui se rajoute et qui fait qu'en fait, les vampires, les garous, les fantômes ont influencé sur les humains et sur l'histoire du monde, en fait. Voilà. Il y a une espèce de double tension, c'est-à-dire l'histoire réelle influe sur l'histoire imaginaire et l'histoire imaginaire influe de même sur l'histoire réelle. Le problème avec ça, c'est qu'il peut y avoir des trucs complètement foireux, comme par exemple l'idée que les vampires, en fait, seraient derrière la Shoah, quoi. Ce qui a scandalisé beaucoup de gens, ce qui a choqué énormément de monde, et ce qui a plus tard été retconné en disant non, la Shoah, c'est uniquement les humains, c'est uniquement la saloperie des humains, et il n'y a pas d'influence naturelle derrière. C'est-à-dire que le fait de jouer avec l'histoire peut causer des triggers, peut causer une dissonance aussi. Par exemple, le fait de dire que, effectivement, que par exemple, le génocide des Amérindiens, c'est pas la faute des humains, mais c'est la faute d'un ventrou. Ça pose un certain nombre de soucis. Hein. Ça déresponsabilise l'être humain, en fait. Et ouais, ça pose alors, un souci.
Ah. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Bon, pas sur le truc le plus facile, mais je pense qu'on peut renvoyer à l'ouvrage Jouer avec l'histoire, là, qui, je trouve, traite pas mal de ce que tu veux dire et tout. Et il y avait aussi le témoignage d'un natif, après que je retrouve, mais... d'un natif américain en fait sur le développement du nouveau
loup-garou
et tout, c'était intéressant. Ouais. Bon, sur ces bonnes paroles, on va se laisser. Je te remercie beaucoup pour toutes ces narcissismes autour de la notion d'univers. C'était super intéressant.
C'était avec plaisir.